Koydesh, Shabbos Koydesh, Yudelech prepare for Shabbos Koydesh, joy is in the air for Shabbos Koydesh.
Bonjour à tous et bonjour à toutes, heureux de vous retrouver après une petite interruption due au fait de Shavuot pour l'émission Le commentaire de la paracha de la semaine par Avraham Harold Weil, grand rabbin de Strasbourg et du Bérin qui est à mes côtés. Monsieur grand rabbin, bonjour.
Bonjour Jean.
Comment se sont passées ces fêtes de Shavuot ?
Écoutez, elles se sont très bien passées, beaucoup de monde aux différentes manifestations, beaucoup de monde aux différents cours également qui ont été organisés tout au long de cette fête de Shavuot, donc je pense que c'était une grande réussite, beaucoup de monde aux offices également.
Un mot sur un événement qui a eu lieu hier, c'était le début des commémorations de l'année André et Rina Neher. Hier, il y avait déjà beaucoup de monde au vernissage également, à la conférence et au colloque qui a eu lieu donc hier matin à la région Grand Est.
Tout à fait, alors une année qui a débuté par le vernissage d'une magnifique exposition consacrée à André Neher et à Anna Weitzman, avec donc cet artiste que l'on redécouvre, hein, avec qui André Neher a entretenu une très belle correspondance. C'était mercredi soir à la région. Il y avait beaucoup de monde et nous avons eu des interventions extrêmement brillantes, à la fois de la part de la belle-fille d'Anna Weitzman, qui a justement mis en avant son œuvre au travers d'un très bel ouvrage qui a été publié, Sibylle Blumenfeld, puis une très belle conférence de la nièce d'André Neher, qui était présente tout au long de la semaine, Elisheva Revel Neher, sur le rapport de Neher à l'art. Et comme vous le rappeliez, Jean, hier, tout au long de la journée, nous avons eu un magnifique colloque sur la pensée d'André Neher, sur l'influence de sa pensée, non seulement dans la communauté strasbourgeoise, mais j'ai envie de dire de manière bien plus large que la communauté strasbourgeoise, sur la communauté française, et même dans un deuxième temps en Israël, là où il a fait son alia après la guerre des six jours. Et donc se sont succédés au micro de brillants universitaires, et un certain nombre d'intervenants également qui étaient venus de l'extérieur, notamment donc d'Israël, spécialement pour ce colloque qui a été d'une très très grande richesse, qui a été un moment également très très émouvant. J'ai encore eu ce matin les retours donc de sa famille, je parlais de sa nièce et son neveu qui étaient présents spécialement pour l'occasion et qui ont été très très satisfaits de la manière dont ce colloque s'est déroulé.
Alors on revient à la semaine, nous lirons cette semaine la paracha Nassau. Votre paracha Bar Mitzvah.
Vous dévoilez des secrets là, Jean.
Ah, c'est vrai ou pas?
Oui, ben on dira pas il y a combien d'années.
D'accord. Ben, vous lirez la paracha demain à la Grande Choule. L'allumage des bougies à 21h04 pour l'heure du calendrier, mais vous pourrez allumer les bougies à partir de 19h45. Et demain, la fin du Shabbat, ce sera à 22h28. On va passer au résumé de cette paracha qui est la plus longue du Chumash.
Alors c'est effectivement, vous avez raison de le rappeler, une paracha très très longue. Hein, et vous l'avez dit, c'est ma paracha de Bar Mitzvah, donc je suis bien placé pour savoir qu'elle est très longue, même si elle n'est pas forcément difficile à prendre. C'est la plus longue au niveau du nombre de versets de Psukim. Comme vous le savez, Jean, étant donné qu'il y a un certain nombre de Shabbatot où nous lisons deux parachiot ensemble, eh bien, il y a certains Shabbats durant lesquels la lecture de la paracha est plus longue, puisque nous devons donc additionner les deux parachutes, mais la paracha de Nassau, au niveau du nombre de versets, 176, est effectivement la paracha qui compte le plus de versets. Pas forcément la plus difficile, puisqu'on y reviendra au cours de cette émission. La fin de cette paracha est très très répétitive, et donc très facile à apprendre. Cette paracha de Nassau nous propose un nombre de sujets extrêmement variés. Le premier d'entre eux est totalement lié à la paracha de Bamidbar que nous avons lue donc, il y a deux semaines, juste avant Shavuot. Et donc nous allons terminer un décompte que nous avons débuté dans la paracha de Bamidbar concernant la plus précisément la tribu des Lévi'im. Nous poursuivrons l'étude de cette paracha par quelques rappels de règles concernant le camp et la nécessité donc de garder les lois de pureté au niveau de ce que l'on appelle le Machane Ashrina, également quelques lois concernant les vols, et après nous aborderons des grands thèmes, le thème de la Sota, donc la femme soupçonnée d'adultère, le thème du Nazir, qui est aussi un thème passionnant, donc un homme ou une femme faisant vœu d'abstinence, en ce qui concerne un certain nombre de choses, on en parlera. Nous aurons la fameuse Birkat Kohanim, hein, qu'on ne peut pas éluder, c'est la bénédiction, la célèbre bénédiction des Kohanim, des prêtres. Et puis nous assisterons dans la dernière partie de la paracha à l'inauguration du Mishkan avec les différents sacrifices qui ont été apportés par les différentes tribus lors de l'inauguration du Mishkan, donc un passage aussi extrêmement important qui permet de terminer cette paracha en beauté.
Voilà. On va donc commencer cette paracha, vous l'avez dit, cette paracha qui traite exactement du même thème que la paracha précédente, c'est-à-dire celle de Bamidbar. Pourquoi on n'a pas tout mis en un coup dans Bamidbar? Pourquoi on a coupé au milieu?
Alors c'est une excellente question et qu'on ne se pose pas forcément. C'est vrai que lorsqu'on lit la paracha de Nassau, on ne se demande pas forcément pourquoi est-ce que le début de cette sidra n'est pas rattaché à la fin de la paracha de Bamidbar. Sachant qu'il traite exactement du même sujet, l'une des réponses que l'on pourrait apporter et qui est proposée, il me semble, par l'un des anciens grands rabbins d'Israël, est le fait qu'on a volontairement voulu séparer la partie qui est consacrée à Kehat, puisque c'est la dernière personne dont on nous a parlé dans la parashat Bamidbar, Kehat qui était le deuxième fils de Lévi, et qui était en charge de la mission la plus noble, qui était donc le transport des ustensiles du Mishkan, et notamment celui de l'Arche Sainte. Et on a voulu séparer cette partie-là du décompte de la mission qui a été confiée aux autres Lévim, pour mettre un petit peu en exergue ce rôle qui était celui qui consistait à porter les ustensiles du Mishkan, et notamment le rôle qui consiste à transporter le Aaron HaKodesh. Il y a une symbolique très très forte dans ceux qui sont en charge du transport de la Torah. Le fait de terminer la paracha en mettant en exergue cet événement-là était quelque chose de très très important. En même temps, eh bien, il a fallu peut-être donner un petit peu de mérite et un petit peu de kavod, un petit peu d'honneur à Gershon, qui est l'aîné de la fratrie, mais qui n'est cité qu'en deuxième position. Et pour cause, eh bien, la mission qui était la sienne est peut-être un petit peu moins noble que celle qui a été confiée à Kehat. Et le fait d'ouvrir une nouvelle sidra en le citant et en s'adressant directement à sa tribu était peut-être une forme de consolation et un moyen de lui dire que ce n'est pas parce qu'on ne lui a pas confié le transport du Aaron que pour autant, eh bien, il doit se sentir déconsidéré et il doit se sentir impacté dans la mission qui est la sienne.
Justement, pourquoi on a interdit les Gershon et Kehat? Pourquoi Gershon n'a pas eu la
préséance? Oui. Alors, vous avez fait remarquer effectivement que Gershon était l'aîné, on vient de le dire, et donc on aurait pu penser logiquement que la mission la plus importante soit confiée à Gershon, mais comme vous le savez, Jean, il y a aussi une question de mérite. Alors, il y a deux manières un petit peu de répondre à cette question. La première, justement, ne prendrait pas véritablement en compte les mérites. Il se peut que Gershon, en réalité, était tout aussi méritant que Kehat pour exercer cette mission, mais la Torah aurait souhaité, en confiant cette mission au deuxième et pas à l'aîné, montrer qu'il n'y avait pas forcément de rapport entre le fait d'être un aîné et le fait justement de transporter la Torah. C'est très important qu'on ne crée pas un lien systématique.
Mais pourtant, dans la Torah, on parle souvent des aînés qui ont 40%.
Tout à fait, mais on a voulu montrer que l'apanage de la Torah n'est pas l'apanage des aînés. C'est ce qu'on a voulu montrer. La Torah appartient à tout le monde et la Torah, elle se mérite. Et si on avait créé un lien finalement presque automatique entre la tribu aînée, entre les enfants aînés et la Torah, eh bien on aurait pu imaginer que cette Torah n'est réservée qu'à ceux qui ont eu la chance de naître en premier, ce qui n'est absolument pas le cas. Et donc c'est peut-être la raison pour laquelle c'est à Kehat que l'on aurait confié cette mission. Une autre manière d'aborder cette question est celle dont je vous parlais il y a un instant, à savoir la question de mérite tout simplement. Et on peut effectivement dire que Kehat, on peut d'ailleurs s'amuser avec les noms, c'est ce que je cite souvent, un très beau commentaire du Shem Mishmuel, Rabbi Shmuel Bernstein de Sochotchov, qui lui dit qu'au travers des noms de Kehat, Gershon et Merari, eh bien, peuvent se dégager leurs propres qualités humaines. Et que Kehat, au niveau de ses qualités humaines, dépassait Gershon. Voilà, Kehat, on le dit, Kehat, ça nous rappelle le vocable de Hake Hachinav, celui de la Haggadah, celui avec lequel eh bien, on va agacer, un petit peu faire grincer des dents le Racha. Kehat, c'est celui qui est capable de se confronter au mal, voilà, pleinement en étant capable déjà de le distinguer en tant que tel. De loin, Kehat, il a une possibilité, il a cette force, cette propension finalement, avant même de se laisser pénétrer justement par les éléments négatifs, eh bien, à pouvoir les garder à distance. Gershon, c'est l'égarèche, c'est celui qui repousse. C'est-à-dire que lui doit se confronter directement, parfois au mal ou à des situations qui le mettent en porte-à-faux, mais il a malgré tout cette force d'être capable d'expulser, de repousser les choses. C'est un degré moindre par rapport à la force qui est celle de Kehat. Et enfin, Merari, ça vient de Mar, amer. Lui, c'est celui qui n'est pas toujours capable de mener ce combat jusqu'au bout, mais qui a au moins la grandeur de reconnaître que la chose lui est particulièrement amère. Et c'est une qualité en soi.
Alors, vous l'avez dit, c'est une longue paracha, il y a beaucoup de sujets. Comment on peut lier tous les sujets qu'il y a, ou alors on a mis un peu ce qu'on pouvait?
Alors, effectivement, lorsqu'on aborde cette paracha, on a l'impression qu'elle est très désordonnée, puisqu'on termine le conte, un sujet qui appartient à la paracha précédente, comme vous l'avez dit. Et puis, alors que tout semble se dérouler dans le meilleur des mondes. Je vous rappelle que depuis le début de la paracha de Bamidbar, on a l'air d'être dans une situation idéale, dans laquelle le clan Israël a l'air de très très bien fonctionner. Il est bien organisé au niveau du camp. On nous parle de compte, on nous parle d'une certaine forme d'harmonie. Et puis cette harmonie va être un petit peu impactée par les sujets qu'on va aborder au milieu de notre paracha. J'aimerais peut-être dire un mot rapide là-dessus qui nous permettra de comprendre le lien. Pourquoi est-ce que tout d'un coup on a décidé d'introduire deux sujets qui sont un petit peu gênants, totalement différents, hein, celui de la sota, la femme soupçonnée d'adultère, et le sujet du nazir, qui, même si cela a l'air d'être un engagement et un sacerdoce tout à fait exceptionnel, est qualifié par la Torah de faute, hein, puisqu'il fallait apporter un sacrifice à l'issue de cette période de naziréat, bien, c'est pour nous montrer que la Torah ne fait pas fi des problèmes qui peuvent exister à l'intérieur d'une société. Même lorsqu'on nous présente une société qui a l'air de bien s'organiser, qui a l'air de bien comprendre quel est le rôle de chacun et comment est-ce qu'elle doit agir si elle veut être capable d'aller de l'avant et de nous proposer quelque chose de cohérent, et bien malgré tout, il peut parfois, ça et là, y avoir des problèmes, et la Torah ne les élude pas. C'est très très important d'introduire ces sujets pour montrer qu'il peut y avoir parfois des éléments qui viennent perturber les choses, qu'il y a des solutions à ces problèmes, et que la Torah, en tout cas, voit comme une mission première de ne pas faire abstraction de ces problèmes, au contraire, de nous les présenter tels qu'ils sont et de nous en proposer également certaines solutions.
Alors, il y a un sujet qui est totalement... qui revient encore, c'est le problème de la tzaharat. Pourquoi avoir réintroduit la tzaharat alors qu'on a eu deux ou trois parachats qui étaient complètement consacrés à ce sujet-là? On a tout vu, les vêtements, la maison, combien de jours, etc. Encore une fois?
Alors, effectivement, la tzaharat, Jean... Pour le rappeler à nos auditrices et nos auditeurs qui n'ont pas suivi les émissions précédentes, c'est cette fameuse maladie mystérieuse qui nous a été longuement exposée dans les sidrotes de Tazria et de Metzora, et qui créait chez celui qui en était atteint une certaine forme d'impureté qui nous obligeait à le mettre à l'écart du camp. Et puis, pour répondre à votre question, puisque nous avons reparlé de l'organisation du camp, je vous rappelle que le camp était organisé en trois cercles. Hein. Il y avait le cercle central dans lequel il y avait donc celui qu'on appelle le premier cercle, le Machane Ashrita, le camp de la présence divine, sur lequel donc était érigé le Mishkan, le tabernacle. Un deuxième camp qui était le Machane Alevim, le camp des Lévites. Et un troisième camp qui était le camp des Israël. En fonction du degré d'impureté qui était contracté, il n'est pas question de notre sidra que de la tzaharat, il peut être question également d'usage, je ne vais pas rentrer maintenant dans des détails trop techniques, eh bien la personne pouvait être exclue ou bien de la totalité des camps, ou bien simplement des deux premiers camps. Et donc il y avait donc on va dire selon la gravité de la forme d'impureté qui était contractée, un éloignement plus ou moins grand de ces camps, mais la place en tout cas de ces sujets est tout simplement liée au fait que nous venons de rappeler l'organisation des camps.
Alors, il y a aussi un autre sujet qui revient, c'est le sujet des vols. Alors, on va essayer d'être rapide. Il y a un certain nombre de lois qui est consacré au vol. Et Rachid, dans son explication, donne deux modèles supplémentaires par rapport aux modèles qu'on connaît sur les vols. Quels sont-ils? Est-ce que vous pouvez déjà nous faire un petit résumé sur la loi des vols?
Alors on a longuement parlé des vols dans des sidrotes précédentes, mais effectivement, ce qu'on nous rappelle ici, c'est que lorsque la Torah répète un sujet, c'est souvent pour nous rapporter des détails supplémentaires qu'elle n'a pas forcément eu l'occasion de nous livrer ou de nous proposer lorsqu'elle a abordé ces sujets. Et c'est le cas ici, c'est ce que Rashi fait remarquer. La manière dont on va agencer ici les versets nous permet d'en extraire un certain nombre de règles supplémentaires, et notamment donc deux règles que vous rappeliez, Jean. La première règle, c'est que l'obligation d'offrir un sacrifice et de payer le fameux chomesh, c'est-à-dire cette amende du cinquième supplémentaire à la victime, eh bien, ne s'applique qu'à partir du moment où le fauteur a confessé sa faute. On l'apprend d'un verset qui nous dit « Veit vadou et ratatam », c'est seulement une fois que la faute a été confessée que « Eshiv et hachamo berosho vachamishito Yosef alav » qu'il y a donc cette obligation d'apporter le sacrifice et de payer cette amende. Elle est directement liée à l'aveu qui a été formulé par le voleur. La deuxième halakha que nous apprenons, elle concerne le prosélyte, c'est très très important. Pourquoi le prosélyte? Beaucoup d'explications pourquoi est-ce qu'on on vient et on tient ici à parler de la règle spécifique qui s'applique à lui et à quelqu'un donc, qui, dans le cas où il serait mort et qu'il n'aurait pas laissé d'enfant, eh bien, nous laisserait un petit peu dans l'embarras, puisque n'ayant pas de famille et pas d'enfants, pas d'héritier, il faut savoir ce que l'on va faire, justement, de cet argent qui lui revient. Mmh. Et c'est là qu'on nous dit que cet argent revient à Dieu, finalement, en quelque sorte. Et c'est très important de nous rappeler ça concernant le prosélyte. Premièrement, parce que ce sentiment d'exclusion qui peut être le sien est exacerbé par l'organisation des camps, où, justement, ce prosélyte peut avoir l'impression de ne plus trouver sa place. Donc, c'est important de voir que la Torah, eh bien, elle pense à lui, elle prévoit les situations particulières qui le concernent, et aussi de montrer la gravité de commettre une faute le concernant, et dans ce cas précis, eh bien, nous rappeler, nous indiquer qu'étant donné que ce qu'on lui doit reviendra à Dieu, c'est que s'attaquer à lui, d'ailleurs comme s'attaquer à n'importe quelle autre personne en retenant ce qui lui appartient, puisqu'on voit qu'il y a différentes formes de vol, et rien ne justifie le vol, on verra, aucune justification morale ne peut aller à l'encontre de ce que la Torah qualifie d'un vol, eh bien, c'est en réalité s'attaquer à Dieu. C'est très très important, parce que si un homme a souvent tendance à minimiser cet acte grave que représente le vol, et on a encore une fois, le vol sous toutes ses formes, eh bien, c'est parce que la personne n'a sans doute pas l'impression qu'en retenant ce qui ne lui appartient pas, ce qui revient à l'autre, eh bien, elle est en train, en réalité, de s'attaquer directement à Dieu et de retenir ce qui appartient, en réalité, à Dieu.
On va parler d'un sujet qui est le sujet de la sota, la femme soupçonnée d'adultère, avec une cérémonie d'ailleurs très étrange dont on parle dans la Torah, plein de choses très bizarres. C'est un thème qui interroge énormément et souvent. Et vous le dites aussi souvent, on ne comprend pas très bien ce qui se trame et il y a une explication à donner.
Alors l'explication à donner, je le dis toujours, la sota c'est un sujet complexe comme celui du nazir qu'on ne peut pas aborder en 2 minutes à la radio, mais je reviens sur l'explication que j'ai donnée tout à l'heure à propos de ces deux thèmes, une explication générale qui montre que la Torah, elle a cette force, elle a cette honnêteté d'aborder toutes les problématiques de manière à la fois très pragmatique mais également très directe, sans tabou, et en se confrontant directement aux choses.
C'est beaucoup exhaustif, on raconte vraiment tout.
Tout à fait.
Toute la cérémonie.
Tout à fait, parce qu'il y a une cérémonie ici qui visait justement, c'est tout le chaos, toute la dignité que l'on cherche à redonner à une personne qui aurait été, dans le cas où elle a été accusée injustement, et bien de lui redonner sa dignité, et le fait de nous raconter les détails, le fait d'aller jusqu'au bout de cette cérémonie et de nous en donner les conséquences et nous montrer à quel point la Torah est extrêmement vigilante par rapport à ça. On ne peut pas accuser quelqu'un à tort, dans la mesure où on aurait porté atteinte à l'honneur qui est dû à une personne, et bien il faut absolument, et parfois même peut-être en faire plus que ce que l'on pourrait imaginer pour lui rendre cette dignité qui a été impactée, qui a été abîmée par une démarche qui n'était pas justice.
C'est justement plus ça, c'est de redonner une dignité à quelqu'un plutôt que de la rabaisser.
On met beaucoup en exergue ce point-là, effectivement. Vous l'avez dit vous-même par rapport à cette cérémonie qui consistait à boire. Donc c'est quelque chose de très, on l'a dit, très étrange. C'est vraiment dommage qu'on ait si peu de temps. Éventuellement, à l'occasion, on pourra consacrer. Non, c'est vrai, même peut-être en dehors de l'émission du Shabbat, à des thèmes comme ça, un petit peu particuliers du Tanakh, avec grand plaisir, une émission entière. Mais effectivement, au travers de ce cérémonial qui consistait à boire, donc ces eaux, et c'est aussi tout ce qui qu'il y a de beau, c'est la dualité qui peut exister à l'intérieur de ces eaux, qui pouvait à la fois eh bien, se retourner contre la personne, ou au contraire, être une source de fertilité, une source de bénédiction. Et c'est ce qu'il y a aussi de tellement beau, finalement. C'est cette dualité, cette dichotomie qui peut exister à partir d'un seul et même élément. Et ces deux faces qui existent au travers d'une même réalité, c'est un sujet passionnant.
Autre thème très spécial dans cette paracha, c'est le thème du nazir. Alors, c'est quoi être nazir, monsieur Grandin ?
Alors là, encore une fois, j'ai dit trop peu de temps pour en parler.
Mais rapidement.
Le nazir, on l'a dit, c'est un thème encore plus surprenant parce que c'est un mot qu'on voit apparaître pour la première fois et qui nous parle d'un cas tout à fait spécifique où une personne aurait décidé, alors a priori animée de très bonnes intentions puisqu'elle souhaite un petit peu se rapprocher de Dieu, elle souhaite s'élever et donc elle décide pour ce faire de s'interdire un certain nombre de choses. Alors, en l'occurrence, donc on va dire il y a trois principaux thèmes dans le nazir. Il y a l'interdiction de consommer des raisins ou des produits qui sont dérivés de la vigne. Il y a une deuxième interdiction qui interdit à cette personne de se couper les cheveux durant toute la période donc, du naziréat. Et enfin, une troisième interdiction qui lui interdit de se laisser souiller, de se rendre impur par le contact avec une dépouille humaine. Et donc, on pourrait penser que cette démarche est une démarche extrêmement positive puisque cette personne souhaite s'interdire un certain nombre de choses justement pour pouvoir peut-être un peu plus se consacrer à Dieu et plus se rapprocher de Dieu. Donc c'est une certaine manière de s'offrir en quelque sorte à Dieu. Sauf que, comme je l'ai dit, il y a une très grande ambiguïté dans cette démarche, dans le sens où, à la fin de cette période de naziréat, la Torah demande au nazir d'apporter un sacrifice, et qu'il y apporter un sacrifice montre qu'il y a ici quelque chose dont la personne doit se faire pardonner, qu'il y a donc une faute. Et à partir du moment où il y a une faute, c'est que cette démarche...
Il n'y a jamais de sacrifice qu'on offre, par exemple, pour une oda.
Il y a un sacrifice de reconnaissance, mais tout à fait. Mais là, le sacrifice qui est mentionné est un sacrifice de faute. Vous savez qu'il y a plusieurs catégories de sacrifices, et le sacrifice qui était apporté ici est un sacrifice de khatat, c'est un sacrifice de faute. Et à partir du moment où c'est un sacrifice expiatoire, il vient expier une faute. Et cette faute, eh bien, elle est forcément liée à l'engagement au vœu qui a été le sien. Pourquoi je parlais d'ambiguïté ? Parce que d'un autre côté, la Torah utilise des termes très élogieux à l'égard de celui qui aurait décidé de se prendre en main. Elle qualifie sa démarche de kadosh, de sainte, mais on est forcément interpellé par ce sacrifice qui nous montre que même si dans certaines circonstances, et c'est pour ça que cette ambiguïté on peut l'expliquer, même si dans certaines circonstances, eh bien, la personne doit parfois prendre des mesures radicales en s'interdisant ce que d'ordinaire la Torah autorise, eh bien ce n'est pas la démarche qui est recommandée, ce n'est pas une démarche naturelle. Alors kadosh, oui, la personne effectivement est sainte parce que la prise de conscience que quelque chose ne fonctionne pas dans sa vie, qu'elle doit prendre des décisions qui sont parfois un petit peu radicales, et quelque chose de bien, c'est quelque chose de salutaire, cela démontre que la personne eh bien, est consciente de ce qui ne va pas, qu'elle a une honnêteté intellectuelle, mais pour autant, ce n'est pas la démarche qui est souhaitée par la Torah.
Dans le Shuel Tatshuot, on parle et on dit, je cite, hein, que le nazir a un degré de sainteté incompatible avec ses activités prohibées.
Shelo Tutshuot du Maharit, hein, je précise que Shelo Tutshuot, ça veut dire répondre ça, c'est un mot général, c'est de l'auteur du Maharit.
J'ai pas donné le nom du... donc, quand on dit degré de sainteté incompatible avec ses activités prohibées, ça ne contredit pas un peu ce que vous venez de dire ?
Alors si, justement, c'est
que... Donc le nazir est quelqu'un qui est très saint.
En tout cas, c'est le but ici que le nazir poursuit, sachant qu'il a... C'est souvent lié à un événement personnel qu'il a pu vivre et qui va, l'inviter à, au travers de cette démarche. Donc, et on le dit, il faut bien comprendre, Jean, que les trois grands interdits ici qui sont mis en avant, alors peut-être que le deuxième est un peu plus difficile à comprendre, l'interdiction de se couper les cheveux, même si les cheveux, d'après le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, sont une sorte de protection aussi avec l'extérieur. Donc on l'a dit, le nazir, c'est quelqu'un qui a à un moment donné besoin dans sa vie de se retrouver uniquement avec Dieu. Mais cette démarche, on l'a dit, elle est à la fois, on l'a dit, positive, parce qu'il comprend que quelque chose ne fonctionne pas dans sa vie, mais à la fois, elle est entachée de quelque chose, d'un problème qui fait qu'il n'est pas capable de vivre cette intimité avec Dieu en continuant à vivre une intimité peut-être avec les autres. Et ça, on l'a dit, c'est une démarche qui n'est pas idéale. Ce n'est pas la démarche que la Torah appréhende et que la Torah envisage. Donc effectivement, au travers de ces trois privations, eh bien, le Nazir va peut-être pouvoir réparer ce qui a été abîmé dans sa vie, mais, et donc on l'a dit, c'est s'interdire la consommation du produit de la vigne avec toutes les dérives auxquelles il peut amener. On a expliqué quel était éventuellement, d'après le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, le sens de cette interdiction de se couper les cheveux et l'interdiction aussi du contact avec la mort, qui est une situation qui met la personne justement en état d'impureté. Alors le Nazir, lui, souhaite rester dans un état de pureté totale, mais attention, on lui précise bien que cette période de Naziria doit à un moment donné prendre fin. Si d'accord, elle permet de réparer quelque chose, il y a un moment donné où elle doit prendre fin et où le Nazir, fort de l'expérience qui a été la sienne, va maintenant pouvoir réintégrer en quelque sorte, hein, bien sûr, une société dont il n'a pas été vraiment, dont il s'est exclu temporairement et continuer maintenant à profiter, à jouir de tout ce dont la Torah l'autorise à jouir sans avoir besoin de se priver, de rajouter à ce que la Torah lui a donc déjà donné la possibilité.
On va sauter la partie sur les Birkat Kohanim parce que ça prendrait trop de temps et on n'a pas assez de temps. Par contre, il y a une chose qui m'a semblé bizarre, c'est quand vous avez la paracha jusqu'à la fin, il y a toute une partie de l'inauguration du Mishkan qui est très rébarbatif, qu'on répète 100 fois la même chose, les mêmes choses, sauf en changeant le nom des chefs de tribu. Pourquoi c'est si long? Pourquoi c'est à la rigueur si embêtant? On aurait pas pu faire ça en deux phrases, comme ça vous étiez plus rapide dans votre parasha.
Alors, on va redire ce qu'on a l'habitude de dire chacun. C'est bien de faire un petit peu de chazara, de répéter, parce que lorsqu'on répète, eh bien, les choses, tout le monde n'est pas forcément à l'écoute, effectivement. Mais à part ça, il y a peut-être, il peut s'en dégager à chaque fois également une idée nouvelle. La réponse classique à la répétition de ces donc 12 offrandes qui ont été faites par les 12 chefs de tribu, c'est très très long et c'est d'ailleurs ce qui va donner à cette paracha le titre de paracha la plus longue de l'année. Ce sont donc ces 12 offrandes qui ont été apportées chaque jour par les différents princes pour inaugurer justement et participer à l'inauguration de ce Mishkan. Eh bien, c'est donner sa place à chacun. C'est tellement important de donner sa place à chacun. Et c'est peut-être même encore plus important, et ce sera peut-être l'enseignement novateur de cette année par rapport aux autres années, de le faire après le don de la Torah. Le don de la Torah que nous avons lu au moment des fêtes de Shavuot la semaine dernière, a mis en prise chacun finalement avec cette Torah et avec sa propre capacité à intégrer, à recevoir la Torah à son niveau, avec ses outils. Et nous le savons, bien sûr la Torah a été donnée à tout le monde, mais chacun a pu l'intégrer, la percevoir par rapport aux outils, par rapport au niveau qui était le sien au moment du don de la Torah. Eh bien, la parachat Nasso, qui est lue dans 99% des cas après la fête de Shavuot, elle montre que chacun a sa place à l'intérieur du clan Israël, que chacun a sa place, que même si il a fallu établir un ordre, forcément, on ne pouvait pas demander à tout le monde de venir apporter les sacrifices en même temps, il fallait respecter une certaine tenue et un seder dans l'apport de ces sacrifices, et bien pour autant chacun a sa place, chacun a un rôle tout à fait particulier à apporter, et qu'au travers de deux sacrifices identiques, et bien, en réalité, contrairement à ce que l'on pourrait percevoir de l'extérieur, ce n'est pas la même chose qui est en train de se jouer.
Quand on le lit, c'est pareil.
Parce que chacun a son intention.
Oui, mais quand on le lit, c'est pareil. Je veux dire, 200 shekels ou 200 shekels de chez vous, de chez moi, c'est les mêmes.
Ah, ce n'est pas la même chose. Parce que l'état d'esprit qui vous anime au moment où vous apportez ce sacrifice fait toute la différence. Et ça, c'est au lecteur de le percevoir.
Mais là, on parle de ça.
On parle de l'apport ici d'un sacrifice qui s'inscrivait dans un moment qui est déterminant dans l'histoire du peuple d'Israël, à savoir l'inauguration du Mishkan. C'est un nouveau départ qui suit la faute du veau d'or.
De ce que pensent les chefs de tribu.
Ce n'est pas marqué dans le texte, effectivement. C'est au lecteur de pouvoir le lire entre les lignes. Et c'est justement C'est justement parce qu'on va utiliser exactement les mêmes mots.
On change uniquement le prénom, ça change pas plus que ça pour moi, lecteur de la Torah. Qu'est-ce que ça change que ce soit Simone ou Lévi ou c'est, pour moi, c'est pareil.
Et c'est justement au travers de mots exactement identiques qui sont utilisés en changeant uniquement les noms que vous allez comprendre que la Torah qui, en principe, est totalement avare en mots, s'est donné la peine ici de pouvoir réécrire et de pouvoir réintégrer le texte pour chacun de ces chefs de tribu, que vous comprenez qu'en réalité, eh bien, derrière ce qu'il y a de très très factuel, c'est-à-dire l'apport d'un sacrifice et de tout ce qui accompagnait ce sacrifice, se cache autre chose. Sinon, la Torah n'aurait pas pris la peine de le faire, et c'est à nous, de savoir lire entre les lignes et de comprendre que ces sentiments qui animaient, cette motivation qui animait, bien sûr, la motivation commune, c'était l'envie de faire partir d'un projet unique, mais les qualités humaines qui étaient intrinsèques, qui étaient tout à fait singulières pour chaque tribu, eh bien, ce sont elles qui ont permis à ce projet, à la fin, d'être un projet extrêmement cohérent.
Alors, on a oublié de souhaiter un refouage chez les mains à tous nos malades et un Shabbat Shalom aux personnes âgées isolées. Monsieur Rama, merci beaucoup. Mazal Tov pour ce Shabbat Bar Mitzvah. On vous retrouve, si Dieu veut, la semaine prochaine. Shabbat Shalom, merci à Lucas pour la réalisation technique. Shabbat Shalom à tous, rendez-vous la semaine prochaine.
Shabbos Kodesh, Shabbos Kodesh, Yudelech prepare for Shabbos Kodesh. Joy is in the air for Shabbos Kodesh. Everyone with a soul aflame to meet the Shabbos Kodesh. Everyone with a role to play to greet the Shabbos Kodesh. A priceless gift, a spiritual life.